journal Kevin Dufresne, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, l'inexorable progression des talibans en Afghanistan. Les insurgés font tomber une à une les capitales provinciales ces dernières heures et contrôlent désormais environ les deux tiers du pays, poussant des milliers de familles sur la route de l'exil. Et la peur se fait désormais sentir jusqu'à Kaboul, la capitale où nous serons dès le début de ce journal. Après la Martinique, le confinement bientôt durci en Guadeloupe pour freiner l'épidémie de Covid. Annonce du ministre des Outre-mer arrivé sur place cette nuit. Les Antilles, où le taux de vaccination est très bas, et partout en France, les médecins traitants cherchent à convaincre les récalcitrants à la vaccination en les appelant un par un. À la une également, Lionel Messi officiellement présenté à la presse ce matin, mais il va falloir attendre avant de le voir jouer avec le PSG. La pluie d'étoiles filantes à venir ce soir et demain, sauf que la pollution lumineuse ne cesse d'augmenter et ça rend l'observation parfois compliquée. Et puis on s'écrit pour les vacances à la fin de ce journal, pas sur les réseaux non, mais avec une bonne vieille carte postale.
À 8h20 dans le grand entretien, deux invités pour nous raconter l'histoire incroyable de ces milliers de feuillets inédits signés Louis-Ferdinand Céline. Découverte historique 60 ans après la mort du sulfureux écrivain Émile Bramy, écrivain essayiste, biographe spécialiste de Céline. Emmanuel Pierrat, avocat spécialiste de l'édition qui s'est retrouvé au cœur de l'affaire. Tous les deux seront à notre micro. Céline, vous êtes fan ou pas? Venez nous raconter, chers auditeurs, ce que ça représente aussi pour vous. On vous attend au standard 01 45 24 7000.
France Inter. Ils sont déjà plus de 350 000 Afghans à avoir pris la route de l'exil depuis début juillet et le retrait des troupes américaines du pays et le début de l'offensive des talibans. Les insurgés qui contrôlent désormais près des deux tiers du territoire et qui enchaînent les victoires ces derniers jours sur les forces gouvernementales visiblement dépassées. Sonia Ghezali, vous êtes la correspondante de France Inter à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. À l'heure où l'on parle, où en est l'avancée des talibans ?
Une autre capitale provinciale est tombée ce matin aux mains des talibans. Il s'agit de Faizabad, dans le nord du pays. C'est la troisième grande ville à tomber au cours de ces dernières 24 heures. Hier, les talibans se sont emparés de Pulekhomri, qui se trouve aussi dans le nord du pays, et de Farah, dans l'ouest. Ils ont capturé 7 des 9 capitales provinciales du nord. Les combats font rage depuis quelques jours autour de Mazar-e-Sharif, la capitale provinciale stratégique du nord de l'Afghanistan. On a vu hier soir et ce matin des avions, près d'une dizaine, quitter Kaboul remplis de milliers de miliciens emmenés par le maréchal Dostum, l'ex-vice-président et puissant chef de guerre du Nord. Tous les regards sont tournés vers lui et ses milliers de combattants. Ils ont réussi jusque-là aux côtés des forces afghanes à résister aux talibans qui toute la nuit ont tenté de percer des brèches dans la résistance des forces de sécurité appuyées par les hommes de Dostum et l'aviation afghane. Dans le sud, les combats font toujours rage à Lashkarga et Kandahar.
Alors pour l'instant, Sonia, Kaboul est épargnée, mais quel est l'état de la population ce matin dans la capitale ?
Elle est dévastée, effrayée. Les habitants de Kaboul sont rivés à leur téléphone, à leur poste de télévision. Ils suivent sidérés l'avancée fulgurante des talibans et ils voient dans Kaboul le résultat tragique de la prise de larges parties du territoire, puisque des milliers de familles ont trouvé refuge dans les rues de la capitale. Des femmes avec leurs enfants sont installées dans un parc du centre de Kaboul. Ils viennent tous du nord de l'Afghanistan, certains de l'Est. Ils ont fui les combats. L'atmosphère est très lourde. Des journalistes afghans, des employés du gouvernement racontent recevoir des menaces par téléphone. La population craint le pire. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Je ne regrette pas ma décision. Ça, c'est le commentaire hier de Joe Biden, le président américain, à propos du retrait de ses troupes dans la région. Les dirigeants afghans doivent se battre pour eux-mêmes, pour leur nation. Fin de citation.
Le Covid, et c'est toujours en France, en Outre-mer, que la situation est la plus préoccupante.
À l'instant, l'Élysée annonce que l'état d'urgence sanitaire va être déclaré en Polynésie française aujourd'hui. Aux Antilles, la situation est extrêmement grave, dit le gouvernement. Ce sera d'ailleurs l'un des principaux points du Conseil de défense sanitaire présidé par Emmanuel Macron ce matin à 11h. Après la Martinique, il va falloir durcir le confinement en Guadeloupe, annonce du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, arrivé sur place cette nuit. L'archipel où le taux d'incidence dépasse les 1800 cas pour 100 000 habitants du jamais vu en France. Et les hôpitaux sont submergés, comme l'explique Gérard Cotelon, le directeur du CHU de Guadeloupe.
On ne sait plus où mettre les malades, on court après le train. Et c'est pas fini. Là, vous avez une cinquantaine de personnes qui sont prises en charge. Dans la salle d'attente, il y a encore une vingtaine. Et ça continue à rentrer. Donc nous sommes là, vraiment, en train de vivre une catastrophe humaine. Il n'y a pas d'autre terme. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Notre métier, c'est de prendre en charge des patients. Voilà, on va les prendre en charge. Il y a des gens qui vont attendre. On fait forcément mal parce qu'il y a tellement de patients avoir, ils sont tous en détresse respiratoire, que voilà, donc on court au plus pressé, c'est de la folie. Nous sommes en train de vivre en direct une catastrophe humaine.
Un témoignage au micro de Florence Permoural de Guadeloupe, la première. Situation très tendue aux Antilles, notamment en raison du faible taux de vaccination. À peine 25% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Sur la France entière, plus des trois quarts de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Mais avec les variants du coronavirus, il faudrait plutôt 90% de Français vaccinés pour atteindre la fameuse immunité collective. Objectif réaliste, dit ce matin le professeur Alain Fischer, responsable de la stratégie vaccinale. Mais ça veut dire qu'il reste du monde à convaincre. C'est le travail de beaucoup de médecins généralistes en ce moment qui, depuis quelques semaines, ont accès à la liste de leurs patients non vaccinés. Reportage dans un cabinet médical parisien, Alice Cachaner.
Sur l'écran du docteur François Teboul, un grand tableau avec les noms d'une quarantaine de patients non vaccinés. Le médecin commence par une octogénaire qui redoute les effets secondaires du vaccin.
Allô ?
Je vous rappelle concernant la vaccination.
J'ai pas très envie de le faire.
Et parce
j'ai un peu peur, je me dis qu'avec ça je vais crever en m'étouffant.
Vous savez que c'est plutôt avec le Covid que vous risquez d'avoir des problèmes. C'est très difficile de raisonner avec elle parce que c'est vrai qu'elle a des effets secondaires avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments.
Pas découragé, le médecin poursuit son listing. Il téléphone à la maman d'une patiente vaccino-sceptique.
Moi, d'accord. Je veux bien. Moi, je suis vaccinée. Son père, il est vacciné. Mais mes enfants, ils ne veulent pas.
Elle ne veut pas se faire vacciner.
Travaillez là.
Le médecin ne parviendra pas, malgré ses arguments, à convaincre cette femme d'une cinquantaine d'années.
Parce que vous savez qu'avec le diabète, ça peut faire que si vous attrapez le Covid, ça peut être grave.
Ouais, je sais bien. Je ne peux pas vous dire exactement la peur que j'ai, mais ça me fait peur.
On voit bien que le coup de fil n'est pas déterminant, mais bon, ça permet quand même de garder le dialogue ouvert.
Philosophe et opiniâtre, le médecin ne baisse pas les bras. Il lui reste beaucoup d'autres patients à contacter. Parmi eux, des personnes âgées qui ont du mal à prendre un rendez-vous en ligne. Il se rendra à leur domicile pour les vacciner.
Alice Cachaner, la question de la troisième dose pour les personnes vulnérables sera sur la table du Conseil de défense sanitaire ce matin. Si le principe semble acté, il faut maintenant définir un calendrier.
8h08, c'est un rapport qui fait froid dans le dos sur la situation au Niger.
Celui de l'ONG Human Rights Watch, dévoilé à l'instant et qui met en avant une hausse des exactions menées par les djihadistes, notamment dans la région dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. 420 civils au moins ont été tués depuis le début de l'année. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être déplacées. Et dans ce rapport, l'ONG appelle les autorités à mieux protéger les habitants, mais aussi les terroristes à épargner les civils. Nathanaël Charbonnier.
Corinne Dufka, la chercheuse à l'origine du rapport, y croit. Oui, il est possible de demander aux terroristes d'épargner les civils. Non, dans une guerre, tout n'est pas permis et c'est du devoir des ONG de le rappeler. Il faut dire que Corinne Dufka connaît son sujet. Elle est allée sur le terrain et a recensé un grand nombre d'attaques en s'attachant à donner des visages et des images à cette guerre, c'est-à-dire en faisant témoigner les habitants. Tous racontent les méthodes des djihadistes, comment ils se vengent des milices, comment ils cherchent à trouver refuge de ce côté de la frontière, comment ils savent créer la panique en très peu de temps, ou encore combien ils savent jouer à merveille des tensions intercommunautaires. Toujours dans son rapport, Corinne Dufka donne le nom des villages, le nombre de tués, les dialectes et langues entendues au moment des attaques. Elle décrit les talkie-walkies et les armes utilisées par les terroristes et explique connaître le nom de certains tortionnaires. Elle pointe enfin du doigt les armées régulières qui ne tiendraient pas suffisamment compte des renseignements dont elles disposent et qui interviendraient souvent trop tard.
Nathanaël Charbonnier. Après l'Amérique du Nord et le sud de l'Europe, c'est au tour du Maghreb de subir chaleurs et incendies. Des températures 10 degrés au-dessus des normales de saison qui favorisent les feux en Algérie, notamment en Kabylie. 42 morts en deux jours, 17 civils et 25 militaires qui étaient mobilisés pour tenter d'éteindre le brasier.
Il est arrivé, il a signé, il va maintenant être présenté.
Le parc accueille son nouveau prince. Conférence de presse à 11h ce matin pour Lionel Messi, qui est désormais un joueur du Paris Saint-Germain. Il sera au Parc des Princes samedi pour saluer les supporters, mais il ne jouera pas. Et Messi sur la pelouse, ce n'est d'ailleurs pas pour tout de suite, Guillaume Batin.
Lionel Messi a terminé une saison épuisante il y a un mois, le 11 juillet dernier, en remportant son premier trophée avec l'Argentine, 1-0 en finale de la Copa América face au Brésil de Neymar. Malgré ses 34 ans, les statistiques de Lionel Messi restent exceptionnelles. Sur la saison, il aura disputé un total de 67 matchs, et inscrit pas moins de 48 buts. Il a pris quelques jours de vacances à Ibiza avec des joueurs du PSG comme l'Italien Marco Verratti, mais il va prendre du temps pour rejouer environ 3 semaines pour retrouver ses capacités physiques, celles qui lui permettent de jouer un match dans son intégralité, 90 minutes, un laps de temps indispensable pour préparer son corps à jouer au plus haut niveau et surtout pour éviter les blessures. Messi pourrait faire sa première apparition avec le maillot du PSG le 29 août à Reims ou le 12 septembre face à Clermont.
Guillaume Batin et Léo Messi portera le numéro 30, le maillot qui est vendu dès ce matin. Le football côté terrain, l'AS Monaco a fait un pas vers la qualification en Ligue des Champions. Nouvelle victoire en match retour du tour préliminaire hier face à Prague, 3-1. Les Monégasques devront se débarrasser en barrage des Ukrainiens du Shakhtar. Match aller à Monaco mardi prochain.
Pluie d'étoiles à l'horizon.
Et oui, c'est ce soir et surtout demain qu'il faudra vous allonger dans l'herbe pour observer les étoiles filantes. Il pourrait y en avoir jusqu'à 100 à l'heure, prédisent les spécialistes de cette 30e édition des Nuits des Étoiles. Mais pour regarder tout ça dans les meilleures conditions, il faut le moins de lumière parasite possible. Sauf que, Sophie Bécherel, la pollution lumineuse ne fait qu'augmenter en France.
Trouver un petit coin bien sombre pour observer le ciel nocturne est devenu un challenge, selon Olivier Lasvergnas, président de l'Association française d'astronomie.
En 30 ans, on voit vraiment que le ciel s'est dégradé déjà sur Terre. Il y a malheureusement quasiment plus de sites en France où on n'a pas un halo lumineux à l'horizon.
Ces 20 dernières années, selon l'Association nationale pour la protection du ciel, la pollution lumineuse a augmenté de 90% sur Terre. Elle gagne aussi l'espace avec la multiplication des satellites. Depuis 1957 et Sputnik, 6000 ont été lancés. Rien à côté de ce qui nous attend, souligne Éric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
Dans les années à venir, on va s'attendre au lancement d'environ 100 000 satellites. Donc on est vraiment en train de changer d'ordre de grandeur. On a de plus en plus de satellites qui arrivent dans l'espace. Et certains de ces satellites sont brillants, notamment des constellations de satellites, comme Starlink qui a été lancé en 2019, et ces satellites qui sont très visibles à l'œil nu.
Pour ce chercheur, il y a urgence à préserver notre ciel nocturne, notamment pour permettre la suite des programmes de recherche.
Les observations qu'on fait en astronomie permettent de répondre à des questions essentielles qui sont comment s'est formé l'univers, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, et ça serait dommage de perdre accès à cela. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de perdre notre ciel, mais si on ne fait rien, le risque est non négligeable.
Le temps presse. L'an prochain, un nouveau grand télescope sera inauguré au Chili. À cause de ses sources artificielles de lumière, il pourrait perdre de 30 à 40% de ses observations en début et fin de nuit.
Et parmi les nombreux points lumineux dans le ciel, Sophie Bécherel en parlait, les satellites, notamment ceux utilisés pour nous permettre d'utiliser un outil devenu indispensable, le GPS. C'est ce matin le sujet de notre série sur les origines de ces objets incontournables du quotidien. Le GPS qui fonctionne, figurez-vous, grâce à Albert Einstein et à sa théorie de la relativité, Antoine Gignot.
Pour vous situer, votre téléphone utilise les signaux émis par des satellites américains qui tournent autour de la Terre. Le problème, c'est qu'à 20 000 km d'altitude et 14 000 km/h, la gravité n'est pas la même et le temps, c'est Einstein qui l'a démontré, ne s'écoule pas de la même façon. Les horloges embarquées à bord des satellites avancent chaque jour de 38 microsecondes par rapport au temps terrestre, un décalage qu'il faut en permanence compenser. Pour vous donner une idée, une différence d'une microseconde engendre une erreur de positionnement de l'ordre de 300 mètres. Le principe est d'ailleurs le même pour tous les concurrents du GPS, GLONASS en Russie, Baidu en Chine, Galileo en Europe. Tous ces systèmes indépendants ont été créés pour éviter que les États-Unis soient en situation de monopole. Mais quels que soient les signaux que vous recevez, votre téléphone est aujourd'hui uniquement capable de vous situer dans un rayon de 3 mètres à la surface de la planète. Pas plus précisément, le positionnement au centimètre près est possible, mais reste réservé aux militaires. Là aussi, tout est relatif.
Antoine Gignot, le GPS bien utile pour trouver la route des vacances. Et une fois sur place, nous sommes nombreux à vouloir partager une belle image de notre lieu de villégiature. Alors certes, il y a Instagram aujourd'hui, mais pour envoyer un petit mot avec aux parents, aux grands-parents ou même aux copains, eh bien beaucoup de Français se tournent toujours vers la carte postale qui se porte donc plutôt bien, Marianne Naquet.
Lunettes de soleil sur le nez, Julien, 21 ans, s'apprête à prendre le train direction Saint-Raphaël. Pendant ses vacances, il a prévu d'envoyer une carte postale à ses parents.
Je pense une belle plage où on voit que l'eau est bien turquoise, histoire de les dégoûter un petit peu, parce qu'ils sont en Bretagne, donc bon, ça fait toujours plaisir. Je trouve que ça apporte toujours quelque chose en plus que juste un SMS ou un mail. Je trouve ça sympa.
Des millions de cartes postales parcourent le pays chaque année. Particularité, cet été, le marché connaît une légère hausse, selon Mario Stavridis, éditeur à Marseille.
Pour nous, le marché de la carte postale, il s'est maintenu, on va dire, pendant plusieurs années, dans une tendance plutôt à la baisse. Et ça s'est stabilisé. Et cette année, on a une petite hausse de la vente.
Même constat pour Bernard Stoll, fabricant historique en Bretagne. Pour se renouveler, il cherche à coller aux tendances des réseaux sociaux avec des filtres ou des effets qui personnalisent les clichés. Il contacte des photographes amateurs sur Instagram.
On est en veille pour regarder un petit peu ce qui se passe. Quoi. Et à partir de là, on contacte ces gens-là. C'est oui, c'est non. Et puis voilà, on propose un contrat d'édition.
Les cartes qui imitent les codes des photos Instagram ont la cote, surtout l'été, la période phare pour les professionnels. 80% des cartes postales touristiques se vendent en juillet et en août.
Est-ce que vous écrivez pour les vacances? Parce que nous, on n'a pas changé d'adresse. Oh, la maison de la radio et de la musique, c'est au 116 avenue du président Kennedy à Paris. Amis auditeurs, à vos cartes postales.
Voilà, bon baiser de Kevin Dufraîche. Merci pour le journal. Coup d'œil sur le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Stéphanie Fromentin, on a rendez-vous avec le soleil.
Oui, alors il traîne encore un petit peu des rayons ce matin, laissant les plaques de grisaille et les bandes brouillard encombrer le ciel de Bretagne, des pays de la Loire, du nord de la Seine jusqu'au Grand Est. En cours de journée, il va se réveiller, imposer sa luminosité au nord, les nuages vont se morceler et la journée va évoluer vers un temps agréablement ensoleillé, partagé entre de belles éclaircies et quelques cumulus de beau temps sur tout le reste du pays. Une fois dissipé le ciel laiteux de l'île de Beauté et de l'ouest de l'Aquitaine, le soleil s'impose et même si quelques nuages bourgeonnent en montagne cet après-midi et conduisent à quelques averses éphémères sur la chaîne pyrénéenne, la journée s'annonce estivale.
Ça va avec. Mercure s'échauffe dans le sud-est.
Le début d'une période qui s'annonce très chaude avec 29 à 33 degrés de l'Aquitaine à l'Auvergne jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Il fera encore plus chaud de l'Occitanie et de la moyenne vallée du Rhône jusqu'au bord de la Grande Bleue avec 31 à 35 degrés. Localement, les valeurs pourraient atteindre les 36 à 38 dans les terres du Languedoc-Roussillon et de la Provence, voire 39 40 dans le Var. Plus au nord, les températures commencent seulement à grimper cet après-midi, donc elles sont beaucoup plus raisonnablement de saison. 21 à 25 degrés de la Bretagne au nord de la Seine, 25 à 30 sur le reste de la moitié nord. Il fera 21 degrés à Lorient, 27 à Paris, mais 35 à Pézenas.
À tout à l'heure, ma chère Stéphanie. Géopolitique à 8h18.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Avec vous, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
On en parlait avec Bichente Elisarazu juste avant le journal de...